Terminons notre enseignement par un passage avec le chapitre 12, Appelés à la vraie liberté. La liberté est quelque chose de fondamental au cœur du mariage, mais je pense qu'il y a une distinction que nous devons faire pour vraiment comprendre ce que signifie être libre et le rapport entre la vérité et la liberté. On distinguera liberté du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la faculté de pouvoir, face à un chemin qui va à gauche et un chemin qui va à droite, choisir d'aller soit à gauche, soit à droite. Le libre arbitre, c'est le fait justement de ne pas être déterminé pour le choix que nous avons à faire. Le libre arbitre, d'une certaine manière, on pourrait dire, c'est la faculté que la calculatrice n'a pas. Votre calculatrice, vous tapez 2 plus 2, elle va vous dire que ça fait 4. Elle ne peut pas se dire que hier il m'a tapé dessus trop fort sur les touches, donc je vais me venger, je vais lui dire 2 plus 2 font 5 ou 3 ou 2078. Votre calculatrice n'a pas de libre arbitre, 2 plus 2 feront toujours 4. L'être humain a cette capacité de se déterminer sans être justement forcé à une réponse. Il a, dans l'exercice de sa volonté, cette capacité à aller à gauche, à aller à droite. Dans une perspective chrétienne, la liberté va donc se distinguer du libre arbitre, et l'on parlera de liberté de l'homme quand il devient ce pourquoi Dieu l'a créé. On voit que la liberté, du coup, dans une perspective chrétienne, est l'accomplissement par la personne d'un donné qui est le sien, d'une potentialité qui est la sienne et qu'il a reçue. La liberté, dans une perspective chrétienne, n'est donc pas de dire « je fais ce que je veux, je choisis ce que je veux comme je veux ». La liberté chrétienne est un accomplissement par rapport à une vocation reçue, reçue de la part de Dieu. On pourrait dire alors que la liberté, c'est de savoir ce qui est bien, de l'aimer et de le faire. La liberté, c'est de savoir ce qui est bien, de l'aimer et de le faire. Et donc, tout acte accompli grâce à mon libre arbitre ne sera pas systématiquement qualifié d'acte libre. On parlera d'acte libre dans la mesure où cet acte accomplit ma vocation. Ainsi, le péché qui s'oppose à notre vocation à l'amour, puisque le péché fondamentalement c'est un refus d'aimer comme le Christ aime, le péché est donc ce qui s'oppose au projet de Dieu pour l'homme. Et le péché est un esclavage parce qu'il conduit l'homme à la perdition, au contraire de l'accomplissement de sa vocation. Alors quand on entend ça, on n'est pas forcément toujours à l'aise parce qu'on a l'impression, on se demande, est-ce que finalement Dieu n'aurait pas tracé pour nous une vocation dans tous ses détails, et donc nous aurions en quelque sorte un destin dont il ne faudrait pas s'écarter, et si l'on s'en écartait, alors ce serait la catastrophe et la perdition. Dieu n'a pas un destin pour nous, mais Dieu a bien un dessein pour nous. Le destin serait un chemin prédéterminé, où chaque pas serait pensé, le dessein est une direction. Le dessein est un appel. Nous avons reçu cet appel à la sainteté, mais notre façon de le réaliser n'est pas écrite détail par détail. Au contraire, Dieu nous invite à exercer notre volonté, à exercer nos choix pour avancer sur ce chemin de sainteté. Et le mariage est un chemin de sainteté. Le choix de votre conjoint ne répond pas à l'idée d'un destin. Ce n'est pas « c'était lui et seulement lui, c'était elle et seulement elle, et si ce n'était pas elle, ma vie eût été gâchée ». Non, mais j'ai la possibilité de m'unir avec lui, la possibilité de m'unir avec elle, et nous pouvons accomplir ensemble notre vocation à la sainteté. La façon dont nous allons user de nos dons, de nos capacités, dépend de l'exercice de notre volonté. Dieu souhaite que nous accomplissions un discernement, que nous mettions en œuvre nos choix, que nous nous donnions les moyens de l'accomplir. Ainsi, Dieu ne nous appelle pas forcément à choisir le choix le plus difficile ou le plus exigeant. Dieu nous appelle à choisir le bien que nous avons discerné. On a une conscience qui nous dit « rejette le mal, choisis le bien ». On a une intelligence qui cherche le vrai, qui est faite pour trouver le vrai. On a une volonté qui aime le bien. Eh bien, l'homme est appelé à user de son intelligence pour discerner le vrai bien à la lumière de la parole de Dieu, à l'aimer et à le choisir avec sa volonté pour le mettre en pratique. Et donc, lorsque nous accomplissons cela, en fait, nous accomplissons la volonté de Dieu. Dieu veut que nous vivions. Il serait peut-être plus grave aux yeux de Dieu que nous n'osions pas vivre, que nous n'osions pas faire nos choix, que nous n'osions pas mettre en œuvre le bien que nous avons discerné avec notre intelligence et notre conscience. Alors peut-être me direz-vous, mais il nous arrive de faire des erreurs, assurément, mais si c'était le bien que j'avais discerné avec les moyens qui étaient les miens, avec la lumière que j'ai cherchée, eh bien, en tout cas, peut-être que je me suis trompé, mais je n'ai pas souillé mon âme. Je n'ai pas souillé mon âme quand je poursuivais un bien. Oui, j'aurai des choses à corriger, mais Dieu admet que j'ai des choses à corriger. C'est avec humilité, du coup, que j'examine, du coup, ce que j'ai fait, que je le relis, d'où l'importance d'une relecture de nos actes, de notre histoire, et nous corrigerons. Dieu nous appelle vraiment à oser mettre en pratique ce bien que nous avons discerné et d'avoir l'humilité de corriger ce qui doit l'être au fur et à mesure. Il est plus grave de ne pas oser vivre que de corriger au fur et à mesure les erreurs ou les choses qui doivent être ajustées. Alors il y a une chose à bien remarquer, c'est que notre discernement se fait donc par rapport à une réalité qui préexiste. La réalité n'est pas le fruit de mon caprice du moment. Comment dire cela ? Eh bien, les choses de la réalité ont un ordre. C'est-à-dire, quand vous travaillez le bois a un sens. Et vous êtes appelé à discerner quel est le sens du bois pour réussir votre sculpture. Si vous n'en tenez aucun compte, vous allez vraisemblablement casser votre morceau, ou en tout cas vous ne lui donnerez pas la forme que vous aviez imaginée. Il y a un sens de la réalité, il y a un poids de la réalité, un ordre de la réalité, une façon de fonctionner de la réalité que nous avons à comprendre et à percevoir. Et nous allons exercer notre talent d'autant plus que nous aurons compris, assimilé cette réalité qui nous préexiste. Et notre intelligence est faite pour saisir, travailler à saisir, à percevoir cet ordre du monde, cette façon de fonctionner du monde. La grande illusion alors, c'est l'imagination capricieuse, celle qui refuse de se donner la peine d'examiner, de comprendre le monde, et qui prétend simplement par un peu son cri que le monde doit se transformer comme magiquement pour correspondre à l'idée qu'il s'en fait. La parole de Dieu vient nous donner un éclairage essentiel pour saisir le sens, la finalité du monde, ce pourquoi il est fait. Et il y aurait donc une incurie grave à ne pas se préoccuper de connaître la parole de Dieu. Il y aurait une ignorance paresseuse et grave. Parfois on se dit, mais oui, je préfère rester dans mon ignorance parce que si je savais, oh, ce serait compliqué, ça impliquerait plein de contraintes, je préfère ne pas savoir. Alors vous me direz, parfois je cherche à connaître la volonté de Dieu dans les Écritures, dans la tradition, mais le chemin qu'elle m'indique ne m'apparaît pas comme bon. J'ai l'impression que ça ne me mène pas au bonheur. Alors, ce sont des choses qui, de fait, peuvent nous arriver. Et dans ce cas-là, on est appelé à la fois à un acte de confiance et en même temps à oser l'interrogation. L'acte de confiance, c'est vraiment de croire la parole de Dieu veut le bonheur de l'homme. Ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bonheur et c'est pour notre vie. Et donc, si je ne le comprends pas, je suis appelé à aller interroger, à aller me renseigner, et à oser avancer avec mes contradictions, les choses qui ne me vont pas, où j'ai l'impression, voilà, ça nous est demandé, mais je trouve que ça va à l'encontre de notre bonheur et de notre vie. J'y vois même un mal. Et c'est parce qu'on ose poser ces questions que l'on pourra avancer. Et c'est une particularité des disciples de Jésus par rapport à la foule. Quand les disciples ne comprennent pas, ils ne font pas comme la foule qui rentre chez eux en n'ayant pas compris. Ils s'approchent de Jésus pour lui dire « Tu as demandé telle chose, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ou de temps en temps, ils poussent un grand soupir et ils se disent « Oh là là, mais si c'est comme ça le mariage, il vaudrait mieux ne pas se marier. » Et c'est vraiment une chose qu'ils ont dite à Jésus quand il leur a parlé de l'exigence du mariage. Et il faut du coup comprendre, recevoir de lui cet éclairage, recevoir de son Église, en osant poser les questions, la lumière qui va nous permettre de saisir la bonté de ce qu'il nous enseigne. En conclusion de ce chapitre, je voudrais insister sur ces deux points. Premièrement, prenez la peine de connaître la parole de l'Écriture sur la famille, la parole de l'Église sur la famille. Intéressez-vous à ce qui en est dit. Et la deuxième, osez poser vos questions avec cet a priori bienveillant, ce que Dieu nous dit, ce que l'Église nous dit est pour notre bonheur. Et donc si je ne le comprends pas, ça vaut le coup d'être interrogé, et même parfois de revenir à la charge pour saisir le bien qui est derrière. J'ai le droit vraiment d'exprimer, c'est presque, on pourrait dire, une responsabilité de mon intelligence, de manifester mes oppositions, mais d'oser interroger en ayant une attention bienveillante à la réponse qui m'est faite. Voilà, je termine ici l'enseignement de cette séance. Vous trouverez sur la feuille d'accompagnement le programme pour notre sixième séance et quelques informations pour la préparation du dossier et pour les rendez-vous des couples que j'accompagne. Je vous souhaite autant que faire se peut un bon carême. Que Dieu vous garde. À bientôt.